A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Salut, salut, salut. Bienvenue sur ce live Instagram. Ce soir, on reçoit la députée Alban Gaillot qui est là. Et hop, allons la chercher.
Alors, je demande juste un instant, le temps que ça se connecte. Hey, ça y est. Salut.
Bonjour.
Tu vas bien?
Ça va, très bien.
Cool. Est-ce que tu m'entends bien?
Ouais, je t'entends très bien.
Ça va alors? Quoi de neuf?
Oui, ben, ça va. Écoute, après cette période un peu surchargée sur la PPL IVG dont on parlera peut-être.
Oui, avec plaisir, ouais.
Donc, ben, voilà, on est sur une période un peu plus sereine, je dirais, même si l'activité parlementaire est toujours… Il y a toujours plein de choses, mais c'est vrai que là, avec les gros moments qu'on a eus sur la proposition de loi IVG, voilà, c'est un peu plus calme maintenant.
Du coup, t'es sur quoi, toi, en ce moment?
Alors, je suis quand même toujours sur la proposition de loi IVG, mais là, on est en train de travailler avec les équipes et sur le suivi. Parce que t'as bien compris que la proposition de loi n'a pas abouti, donc il faut maintenant qu'on arrive à la faire inscrire à l'ordre du jour par le gouvernement ou la majorité.
Donc, je veux bien que tu nous fasses un petit historique, si ça ne te dérange pas, Alban.
Oui, bien sûr.
Sur ce texte super important, en l'occurrence.
C'est un texte super important parce que c'est un texte qui parle d'une problématique que rencontrent les femmes pour accéder à l'IVG. Donc, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, on a bien vu qu'il y avait pas mal de femmes qui n'arrivaient pas à accéder au centre IVG. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse des choses. Donc, le gouvernement s'est un peu bougé pendant le confinement. Mais on voit bien qu'en fait, les problématiques d'IVG, c'est des problématiques qui concernent, qui ont lieu tout le temps, en fait. Et donc, j'ai déposé une proposition de loi. Et puis, j'ai voulu qu'elle soit transpartisane. Donc, c'est une proposition de loi qui est co-signée à la fois par la France Insoumise, les socialistes, les députés de centre droit, de tous bords. Et alors, un peu de technique légistique, les parlementaires, c'est comme si une proposition de loi et que je faisais partie d'un groupe d'opposition. On a 15 jours dans l'année où les groupes d'opposition peuvent discuter de leur texte. Un seul jour.
Absolument.
Et c'était le 8 octobre. Donc, on a discuté de ce texte le 8 octobre.
Ça, c'était au moment où existait encore le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité. C'est ce qu'on appelle, je précise, pour celles et ceux qui nous écoutent. Parfois, vous entendez parler de niches, ce qu'on appelle les niches parlementaires. C'est exactement ce que Alban est en train de nous expliquer.
Voilà, ça n'a rien à voir avec le chien. C'est vrai, c'est tout petit.
Encore que ça aboie beaucoup parfois.
Ça on pourrait faire des thèses sur pourquoi le terme. Non, c'est une niche parce que c'est tout petit en fait. On n'a qu'une seule journée. Et donc du coup, ça a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Après, c'est allé au Sénat. Bon, au Sénat, on s'y attendait en fait, parce que au Sénat, c'est conservateur de droite, donc ça a été rejeté. Et c'est revenu à l'Assemblée nationale. Comme j'avais plus de groupe, ma proposition de loi a été hébergée par un autre groupe qui sont les socialistes. Et comme tout autre groupe d'opposition, en fait, les socialistes, eux aussi, n'ont qu'une journée de niche. D'accord ?
Et donc, ça dépend pas de la taille du groupe, c'est dingue ça quand même. Ça pourrait au moins dépendre de la taille du groupe, non ?
Non. En fait, non, que vous soyez petit ou gros, si vous êtes un groupe d'opposition, vous n'avez qu'une seule journée. Donc du coup, imaginons, vous êtes le groupe socialiste, vous avez déjà plein de sujets. Et vous en ajoutez un. Donc du coup, ils ont tenté tout pour le tout. On est allé en commission, il a été adopté le texte.
Et puis on a vu, les Républicains ont fait ce qu'on appelle de l'obstruction. Et ils ont déposé près de 500 amendements.
Alors, c'est impossible, du coup, de faire voter une loi en une seule journée avec 500 amendements. À titre d'exemple, le projet de loi sur le séparatisme, dont vous avez tous entendu parler, c'est 2000 amendements. Voilà. Ces 2000 amendements, on a eu 15 jours pour en parler. Donc voilà, donc du coup, le texte a été retiré. Et donc, je cherche à faire en sorte que ce soit le gouvernement qui l'inscrive à son ordre du jour.
D'accord.
Et comme ça, on aura tout le loisir. On aura 2 jours, 3 jours pour en discuter.
Ouais. C'est ce que j'avais demandé justement, parce que de mémoire, le gouvernement avait émis un avis favorable sur ce texte.
Oui, alors tu as entendu que c'était un peu partagé, puisque effectivement, le 8 octobre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a dit avis de sagesse, on attend l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Entre-temps, le Comité national d'éthique a dit « Ok, c'est bon pour le délai, on veut bien l'augmentation du délai de 12 à 14 semaines de grossesse ». Donc voilà, on a l'avis du Comité d'éthique, ok. On a l'avis de sagesse du gouvernement. Madame Moreno, la ministre de l'Égalité, a dit qu'elle était pour. Et puis ça a été voté une fois par les parlementaires. Assumez votre responsabilité, prenez-le en charge.
Et tu penses que ça, c'est quelque chose qui pourrait aboutir?
Alors, c'est un gros travail. Pour tout te dire, j'ai mis en place une sorte de comité d'action, de suivi d'action avec les associations, que ce soit le planning familial, réseau des centres d'orthogénie, puis plein d'autres acteurs, puis des gynécologues qui sont mobilisés, justement pour réfléchir à toute cette mobilisation et commencer à mettre en place des actions de terrain. Voilà.
Je fais juste une petite précision pour celles et ceux qui nous écoutent. Alban parlait d'une proposition de loi. Une proposition de loi, c'est un texte qui est proposé par les parlementaires. Contrairement à ce que vous entendez souvent parler, et c'est normal parce que c'est des textes qui sont majoritaires, aux projets de loi qui sont, eux, présentés par le gouvernement. Voilà. Parfois, c'est pas forcément évident.
Non, mais
vous connaissez la différence.
C'est vrai que c'est compliqué ça à expliquer parce que... Effectivement, c'est...
Donc, en gros, prochaine étape, il faudrait que le gouvernement inscrive le texte, enfin, en fasse son texte, en quelque sorte.
C'est ça, tout à fait. Exactement ça.
Et toi, tu penses que ça pourrait aboutir? Enfin, tu le sens comment?
Oui, moi, je pense, et puis j'ai un naturel optimiste. Je pense que, il faut garder la foi. Moi, j'y crois, c'est un combat que je mène. Et puis, les femmes l'attendent, les associations aussi. Il faut savoir que chaque année, entre 3000 et 5000 femmes partent à l'étranger pour avorter. Donc tous les mois c'est je suis pas très bonne en mathématiques, mais voilà, c'est tous les mois il y en a bien une centaine de cents qui partent à l'étranger. Donc on peut imaginer qu'en plus dans la période de confinement là dans laquelle on est, si vous allez aux Pays-Bas, que vous devez faire un test PCR de moins de 72 heures, que vous êtes déjà
L'urgence en plus. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les dispositions principales de cette proposition de loi, s'il te plaît?
Oui, alors il y avait deux articles au début. C'est l'allongement du délai de 12 à 14 semaines de grossesse. Alors, il faut savoir que aux Pays-Bas, c'est 28 semaines. Donc, d'autres pays, c'est 20 semaines. Donc, 12 semaines de grossesse, on est vraiment au minimum, quoi, niveau européen, du standard européen. On ne tire pas l'Europe vers le haut, quoi. On n'est pas un des pays les plus progressistes. Et on voit que 12 semaines, c'est vraiment trop court. Et notamment, je le dis, chez les jeunes femmes qui parfois ne savent pas, ne connaissent pas encore bien leur corps, qui sont pas encore bien réglées, les cycles irréguliers, 12 semaines, ça passe super vite.
C'est clair. Tu mets vachement de temps, en fait, à t'en rendre compte. Si jamais, bien sûr. Moi, tu vois, par exemple, mon expérience personnelle, moi, mes règles, je les ai jamais au même moment, je tiens pas de calendrier. C'est un peu n'importe quoi, tu vois. Donc,
Ça va super vite.
Bien sûr.
Ça va super vite. Donc, c'est très important. Il y a quelque chose un peu technique, mais qui a son importance quand même. C'est la suppression de ce qu'on appelle la clause de conscience spécifique.
Ok. Ça veut dire que tu nous expliques en détail.
En gros, pour vous dire, tous les médecins, aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle une clause de conscience. Ils peuvent dire, non, je ne veux pas pratiquer cet acte. Alors, ça peut vous sembler étrange. Ils ont ce droit. En 75, Simone Veil a négocié un compromis, une sorte de garantie plus-plus pour les gynécologues qui ne voudraient pas pratiquer l'IVG. ils ont inscrit dans la loi une sorte une clause de conscience spécifique. Alors, c'est un symbole, c'est un compromis de 75. Je pense que la loi aujourd'hui a évolué, notre société a évolué. On n'est plus dans le temps des compromis ni des symboles. Et on sait qu'aujourd'hui, cette clause de conscience a fait des ravages, en fait. Elle est utilisée de manière insidieuse par les médecins, les gynécologues. Voilà, ils déclarent pas. Quand vous allez sur Doctolib, il n'y a pas marqué gynécologue refusant de pratiquer l'IVG, par exemple. Donc, imaginons, je ne sais pas, vous en êtes déjà à la 6e semaine, 8e semaine, et vous allez voir un gynécologue, il vous reçoit, bien sûr, asseyez-vous, il vous écoute, et puis il vous dit bah non, en fait, je ne pratique pas l'IVG.
Et donc, entre-temps, tu as quand même payé ta consultation. Voilà. Ça met un mois avant que tu sois remboursé. Est-ce qu'il n'y a pas de tiers payant généralisé ? Enfin, bref, je vois le genre.
Donc, voilà, c'est pas. Donc, ça, c'est important de le supprimer. Ensuite, il y a des choses qui ont été introduites par voie d'amendement. Et notamment.
Attends, petite question, pardonne-moi, sur cette clause de conscience, parce que je trouve ça assez hallucinant. Est-ce qu'on arrive à. On sait combien de. Enfin, en pourcentage, hein, même si c'est à la louche, combien de médecins l'appliquent ?
Non, on ne sait pas. Justement, c'est ça qui est insidieux, c'est que même les professionnels qui accompagnent les femmes, comme le planning familial, ne sait pas en fait. Et donc, c'était une des demandes, justement, c'était d'avoir une sorte de répertoire des professionnels de santé qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas. Donc ça a été apporté par voie d'amendement. Et puis, une autre chose, c'est permettre aux sages-femmes de pouvoir pratiquer les IVG instrumentales. Voilà, ce qu'elles ne pouvaient pas faire. D'accord. Donc ça c'est aussi une demande. Alors ça sera pas mon idée, c'est pas de forcer la main des sages-femmes. Si elles ont pas envie de pratiquer, elles le font pas. Et bien évidemment, les sages-femmes seront formées à le faire. Hein, donc c'est pas une obligation. Mais c'est vrai que ça répond aussi à ce que la problématique aussi d'accès aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de centres IVG. Il n'y a pas assez de professionnels de santé. Quand vous êtes, là où j'habite, à Villejuif. En région parisienne, tout simplement, vous n'avez pas la même offre de soins que si vous habitez, en Normandie ou dans la Nièvre.
Bien sûr.
Vous voyez je ne sais pas, si vous habitez dans la Nièvre et que vous n'avez pas de centre d'IVG, vous n'avez pas de gynécologue, il va falloir prendre le car, le train. Imagine la problématique, quoi. Donc, les sages-femmes, on sait qu'elles sont présentes sur le territoire.
Un bon maillage territorial, ouais, c'est clair.
Voilà.
Bien sûr.
Voilà les mesures qui sont j'en ai oublié d'autres, mais c'est les mesures les plus importantes en fait. Voilà.
Et quand tu parlais des amendements d'obstruction de la droite tout à l'heure, c'était quoi comme type d'amendement typiquement ?
Ah ben, vous avez tout.
Suppression des articles.
Alors la suppression des articles, ça c'est normal. Je dirais que c'est un jeu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord, vous dites un amendement de suppression. Ce qui est un peu plus, ce qui prouve bien l'obstruction, c'est quand vous avez un amendement qui réécrit une phrase en changeant la virgule de place. Voilà. Je sais pas si j'ai écrit l'amendement.
C'est pas jugé irrecevable.
Non. Eh non, ça c'est autre chose. Ça fait partie de ce qu'on appelle le droit d'amendement. Et c'est pas déclaré irrecevable. Les conditions d'irrecevabilité. En gros, il y en a deux qui sont le fait que l'amendement crée une charge. En tant que parlementaire, on n'a pas le droit de créer une charge financière. Et le deuxième…
C'est l'article 40, c'est ça ?
Voilà, parfait.
J'ai bien bossé. Hein.
Et le deuxième, c'est l'article 45. C'est ce qu'on appelle le cavalier législatif. Ça n'a rien à voir qu'un cheval. Tout à l'heure, je parlais du chien, maintenant c'est le cheval. C'est quand vous déposez un amendement qui n'a rien à voir avec le sujet. Ouais. Voilà. Donc, non, c'était vraiment des amendements d'obstruction. On change la virgule de place, on met un « et » au lieu de, je ne sais pas, autre chose. Voilà.
D'accord. Ouais. Pénible. Voilà. Ok, c'est donc gros sujet. Bon, écoute, courage on est derrière toi à fond, quoi. À fond. Et du coup, tu parlais des autres pays européens. En moyenne, est-ce que si tu sais, parce que je trouve ça assez intéressant de faire des comparaisons avec nos voisins, en moyenne, quels sont les délais pour l'avortement dans les pays autour de la France ? L'Espagne, c'est plus long déjà ?
L'Espagne, il me semble que c'est 20 semaines, je ne veux pas dire de bêtises.
C'est ça, hein.
Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai plus en tête. Mais oui, autour de nous, on est un des pays les moins 10 ans en fait.
Ok. Oui. Et par rapport à la promulgation de la loi en 75, Est-ce que le délai a été augmenté ou pas du tout?
Oui, on a la dernière augmentation date de 2001, okay, donc c'était à 20 ans. D'ailleurs, nos contradicteurs nous disent, écoutez, vous, arrêtez vos histoires parce que plus vous allongez, plus les femmes elles vont attendre. Vous voyez, mmh. Donc si vous passez de 10 à 12 semaines, elles vont attendre jusqu'à 12 semaines. Vous passez de 12 à 14, les femmes vont attendre de 12 à 14 et ainsi de suite. Vous commencez à avorter. Alors, il y a une étude statistique de l'INED, qui est l'acronyme, je ne sais plus exactement, mais qui a expliqué, qui a démontré qu'il n'y a pas eu de report, en fait, en 2001. Quand on est passé de 10 à 12 semaines, les femmes n'ont pas attendu, en fait, 12 semaines. Ça, donc, on voit bien que les 12 à 14 semaines vont répondre à une problématique réelle et concrète qui est rencontrée par les femmes. C'est exactement les femmes qui partent à l'étranger avorter.
Pourquoi tu as décidé 14 semaines et pourquoi pas 20, par exemple?
Ah, parce qu'il faut y aller aussi à petits pas. Ouais. Tu vois, c'est
que ça passe, hyper quoi. Difficile.
C'est hyper difficile déjà de faire passer de 2 semaines supplémentaires. Bien évidemment, je sais que le planning familial m'a tout de suite dit que j'allais pas assez loin. Voilà, je pense qu'il faut aussi. On est un pays assez qui a peur du changement, je dirais.
Tu parles.
Voilà.
C'est clair.
Ouais. Voilà.
Et tu parlais des détracteurs, parce que je suis sûre que c'est essentiellement des mecs. Quels sont les arguments? Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Pas que. Clairement. Mais majoritairement quand même, non?
Oui, c'est vrai. Alors dans l'hémicycle, c'est vrai que j'ai vu des mecs costauds de droite là, qui étaient bien pro-life.
Et quels sont leurs arguments vraiment?
Leurs arguments qu'ils veulent pas annoncer clairement, c'est qu'ils sont contre, en fait. Pour moi, ils sont contre, clairement, mais ils se cachent du coup derrière des arguments. Donc, c'était intéressant au mois d'octobre quand on était dans l'hémicycle, parce que un des arguments qui m'a été sorti à tort et à travers, à toutes les sauces, c'est de dire ça représente un danger pour la femme. C'est pas la même technique. Vous voyez, il y a plus de complications. Et puis pour les médecins, surtout, hein, les pauvres médecins, ils vont pas y arriver. Donc du coup, je suis allée voir un peu, genre, j'ai aussi ce que faisaient les autres pays.
Technique, c'est plus compliqué parce que le fœtus, alors, c'est plus développé, c'est ça l'idée? Alors,
oui, voilà. Moi, j'ai pas fait médecine, mais effectivement, je comprends bien qu'un fœtus, ouais. Un fœtus qui a 15 jours de plus, et bien évidemment, je suis pas complètement naïve, j'imagine bien qu'il est plus. D'accord? Je suis allée regarder les taux de complications aux Pays-Bas qui font des avortements. Mmh. Je le rappelle, c'est à 28 semaines. Les femmes, elles meurent pas.
Attends, 28 semaines, c'est 6 mois du coup.
Ouais, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est énorme. Okay. Là, on est sur quelque chose d'énorme. Voilà, en fait, il y a des études, il y a plein d'études qui montrent, et le Comité national d'éthique l'a dit, hein, il n'y a pas plus de complications pour les femmes. Le fœtus est plus gros, donc ça nécessite un matériel adapté au fœtus. Mmh. Voilà, donc il faut aussi. Et les professionnels que j'ai rencontrés me disent, il faut aussi que les gynécologues soient bien formés.
Oui, tout simplement. C'est une volonté aussi politique.
En France, on forme assez mal, en fait, les gynécologues à l'IVG. D'ailleurs, on leur dit assez rapidement de leur formation, oh, vous inquiétez pas, hein. Si vous voulez pas le faire, le faites pas. Vous avez pour vous la clause de conscience. Ouais. Donc voilà.
Ouais, c'est un peu compliqué quand même. Bon, en tout cas, bravo pour ce combat. C'est super important. Super. Merci. Important. Du coup, on va en profiter pour parler un peu de toi, sauf si tu as encore envie de parler des actus politiques, non, ou parlementaires, hein, pas de souci. Mais donc, ce combat, quand même très fort, que tu portes à bout de bras depuis des mois, c'est quelque chose qui te définit. Enfin, moi, je vois un peu, tu vois, dans les différents réseaux, que ce soit politique ou féministe, Alban Gaillot, c'est la PPL IVG, c'est vraiment presque consubstantiel, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à porter avec autant de ferveur ce combat? Est-ce que c'est un passé féministe? Est-ce que c'est un engagement fort? Est-ce que c'est un événement personnel même, peut-être? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu en aies vraiment fait ton combat?
C'est pas forcément un engagement. Alors, l'engagement féministe, il est pas, il n'existe pas depuis des années. Hein. Enfin, je pense que c'est aussi au travers de mon mandat que j'ai découvert aussi les difficultés des femmes. que j'ai rencontré des associations, que j'ai rencontré des institutions, que j'ai rencontré des gens qui me racontaient les difficultés. Alors là, sur l'IVG, en l'occurrence, c'est vraiment pendant la crise sanitaire que j'ai pris conscience de ces difficultés que rencontrent les femmes au quotidien. Et les associations qui m'ont alertée m'ont dit « Mais attendez, c'est pas possible, il se passe rien. Avec le confinement, là, les filles, elles peuvent pas bouger de chez elles, elles peuvent pas avorter. On va se retrouver devant une crise sanitaire majeure. » Et vraiment, c'est un danger, vraiment quelque chose d'important. Donc, oui, je me suis dit, moi, en tant que parlementaire, quel est mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je reste les bras croisés, j'attends que le gouvernement se saisisse du sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que le gouvernement, il a pris des mesures temporaires, mais je me suis dit, mais c'est pas temporaire, en fait. On voit bien que c'est pas temporaire, en fait, cette histoire. Donc, oui, je me suis saisie de ça parce qu'en fait, il fallait le faire et c'était dans mon rôle aussi de parlementaire, quoi. Et on s'est dit avec mon équipe, bingo, on écrit la proposition de loi et on y va, quoi. On va voir ce que ça donne parce que, c'est un combat qui est pas forcément qui existe chez moi depuis 20 ans, mais c'est, je me suis dit, voilà, à quoi je sers si je peux pas servir à quelque chose en tant que parlementaire, quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi j'ai quitté le groupe parlementaire majoritaire l'année dernière. À peu près l'année dernière, quoi. C'est un groupe, je vais pas revenir sur le fond parce qu'on pourrait en parler 4 heures, mais c'est vrai que quand vous êtes dans un gros groupe, vous attendez aussi que la machine elle se mette en route. Vous n'êtes pas forcément à l'initiative des propositions de loi. On vous désigne une proposition de loi, oui. C'est un mécanisme qui est très bien huilé. Là aujourd'hui, moi, je suis toute seule, je suis non inscrite. À l'époque, j'étais écologie, démocratie, solidarité, et il me semblait important de porter ce combat parce que personne n'allait le porter, quoi. Voilà.
Ouais. Et tu fais bien d'en parler. Donc, tu arrives à l'Assemblée nationale quand, avec l'étiquette La République en marche. C'est ton premier mandat.
Oui.
Qu'est-ce qui t'amène à l'Assemblée nationale?
Qu'est-ce qui m'amène
Comment tu te retrouves à être élue, en fait? Raconte-nous cette histoire, parce que c'est quand même pas rien, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est plein de circonstances, mais c'est vrai que moi, c'est mon premier mandat, j'avais jamais été encartée. Je vais dire que je suis rentrée à la politique par souvent comme d'autres femmes, par les parents d'élèves, en fait. Vous voyez, c'est les premières fois où vous commencez à vous soucier, je dirais, de l'intérêt général, de la vie de la cité, vous commencez à prendre part des formes de dialogue social, part de l'activité de l'école. Et en fait, c'est là que vous commencez à prendre un pied en fait dans la politique, plutôt locale. Et puis, mais c'est vrai que moi, je me suis jamais encartée parce qu'en fait, c'est vrai que je suis née dans une famille très très politisée qui a toujours parlé beaucoup beaucoup politique, très engagée politiquement. Et je crois que j'avais une forme de rejet de la politique. J'étais quelqu'un qui refusait un peu le dogmatisme de la politique. C'était noir ou blanc. Enfin voilà, je j'aimais pas trop cette vision-là. Alors j'ai cru du coup quand Emmanuel Macron est arrivé. J'ai cru à cette vision pragmatique des choses en disant une idée si elle est bien, si elle est de gauche ou de droite, peu importe, vous voyez. Et donc j'ai cru à ça, donc j'ai créé le premier comité local de vie juive et ainsi de suite. Et puis quand Emmanuel Macron a dit il me faut des femmes pour être députée, voilà, je me suis inscrite, j'ai passé un entretien et voilà, on fait la campagne et j'ai été élue. J'ai jamais rêvé d'être députée, je t'avoue, c'est un peu un hasard.
C'est marrant parce que tu vois, quand il avait fait cet appel, moi j'étais là, c'était bien, hein, c'était un joli coup de com' pour le coup. Après, on a compris quand même que finalement, la place des femmes dans la société n'était absolument pas sa priorité, mais c'était un super joli coup de com'. Et en fait, maintenant, en parlant avec toi, la dernière fois, j'en parlais aussi avec Laetitia Avia, je crois que Paola Forteza, c'était son cas aussi. En fait, vous êtes assez nombreuses à avoir répondu à cet appel, et vous êtes engagée en politique grâce à cet appel.
Non, mais c'est vrai.
Moi, sans cet appel, je serais pas à l'Assemblée nationale, donc c'est quand même ça a fonctionné en fait, c'est pas mal.
Non, mais ça c'est sûr. Au-delà, effectivement, je te rejoins sur le marketing, le coup marketing et de com de En Marche et d'Emmanuel Macron, qui est génial, qui a bien marché, puisque effectivement, il nous a fait intégrer dans son jeu, quoi. Sauf qu'effectivement, tout de suite, on se rend compte que le droit des femmes, voilà, c'est quelque chose qui est pas sa priorité, hein. Clairement.
Ouais, non, c'est sûr.
Et
c'est sûr.
On l'a vu assez rapidement. Oui, première déception, c'est effectivement pas de première ministre, pas de ministre droit des femmes. Il aura beau faire des violences conjugales, c'est la première cause du quinquennat, la côte du quinquennat. N'empêche, on voit bien que les moyens sont pas mis en œuvre, les moyens sont pas mobilisés, il y a pas de portage politique réel. Donc voilà, c'est les premières déceptions assez rapidement en fait. Hein. Voilà.
Donc toi, tu quittes le groupe l'année dernière. Est-ce que tu as attendu qu'il y ait l'opportunité de la création d'Écologie, Démocratie, Solidarité pour partir, ou est-ce que tu avais déjà envie de partir et finalement la création du groupe c'est faite en même temps que tu pars, au départ, pardon.
Oui, non, en fait, j'ai commencé à partir. En fait, j'ai mis un premier pas, un pied en dehors de la REM, déjà juste après le vote du CETA. Le CETA, c'était l'accord transatlantique sur les échanges commerciaux. Moi, j'avais exprimé à Gilles Lejean, qui était le président de groupe à l'époque, que j'allais voter contre cette disposition. Et que, à partir de ce moment-là, donc c'était en juillet 2019, je crois, c'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis mis en apparenté, c'est-à-dire que j'avais le droit d'assister aux réunions de groupe. Voilà. J'avais le droit d'assister aux réunions de groupe, mais en gros, on m'a fait comprendre que j'aurais pas de rapport, pas de mission, sauf que j'en avais jamais eu avant, donc de toute façon, ça changeait
pas grand-chose.
Et puis, en fait, ce qui a décidé vraiment mon départ, c'est le 49.3 sur la réforme des retraites. Parce que là, pour moi, c'était vraiment, je trouve, la cerise sur le gâteau, quoi. C'était Emmanuel Macron, c'était aussi la promesse de changer les pratiques. Voilà. Une vision pragmatique, on change les pratiques.
Ouais, donc pour moi, autrement, quoi.
Autrement. Pour moi, 49.3, c'était exactement à l'inverse des pratiques.
C'était Valls.
Et quoi qu'on en pense du texte, qu'on soit pour ou contre, je ne suis pas sur le fond. C'est-à-dire que sur la forme, j'ai pris ça comme un mépris du Parlement, un mépris de notre travail. Et voilà, ça m'a décidé à quitter le groupe. J'ai envoyé un SMS assez rapidement à Gilles Lejeune, puisqu'après, il y a eu le vote de la confiance. Je n'ai pas voté la confiance et je suis partie. Et donc j'ai pas attendu EDS puisqu'on a donc après il y a eu l'annonce du confinement et puis on a pris contact avec Paula Forteza, Mathieu Orphelin, Delphine Bateau et on a élaboré petit à petit Écologie, Démocratie, Solidarité. Voilà.
Et après le groupe est mort.
Oui, parce que
pour avoir un groupe c'était il y a quelques mois. Hein.
Oui, c'est ça, c'était je sais plus la date exacte mais c'était juste après la proposition de loi IVG. Juste après, je crois.
En octobre.
Mi-octobre. Ouais. Ben oui, parce que autre apprentissage de la vie parlementaire, un groupe parlementaire, c'est 15 députés. Voilà. Ouais. En dessous de 15, vous avez plus de groupe. Ouais.
En dessous de 15, vous avez plus de groupe. C'est Jennifer Tiam. Ouais, j'arrive jamais à prononcer son nom. Donc. Mais enfin, c'est elle qui a quitté le groupe et qui, du coup. Elle a fait se dissoudre. Et c'est d'ailleurs, elle l'avait rejoint, c'était la dernière à l'avoir rejoint, non ?
Non, c'était une des premières, Jennifer.
Ah, ok, je crois que c'était une des
premières. Non, elle était avec nous assez rapidement, je crois. Oui. Non, ça a été une surprise parce qu'on savait que Martine Vonneur, elle allait partir. Martine Vonneur avait des prises de position, de toute façon, qui étaient pour nous assez antinomiques avec nos valeurs. Et donc, du coup, on était assez à l'aise pour qu'elle parte. Mais Jennifer, ça a été une douche froide en fait, parce que vraiment on a essayé de la retenir, ça a été compliqué parce que vraiment on n'a pas vu le coup venir. Après, d'accord. Je pense qu'on était un peu, on a peut-être un peu trop sûr de nous. On n'est pas allé chercher des gens, on n'est pas allé chercher des députés, on a cru
pour agrandir le groupe.
Voilà, on aurait.
Ouais, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns parmi, par exemple, Liberté et Territoire ou Nasserie avec qui vous auriez pu. C'est vrai. Bon, tant pis. Prochaine fois. Et par exemple, Liberté et Territoire, mais j'ai un peu l'impression que c'est. Non, je ne vais pas dire ça comme ça, c'est pas sympa, mais un pot pourri presque. Il y a un peu de tout. Et ouais. C'est pas du tout un groupe dans lequel tu pourrais, par exemple, auquel tu pourrais te rattacher?
Ben, non, parce qu'en fait, je préfère être non inscrite okay. aujourd'hui. Plutôt que si on a créé une écologie, démocratie, solidarité, c'était autour d'un projet commun, en fait, de valeurs communes. Alors, il faut savoir qu'on a un peu hacké le système parce qu'en gros, hein, parce qu'on travaille toujours en collectif, en fait. EDS existe toujours pour nous. On a toujours nos boucles télégraphes. On travaille toujours nos amendements ensemble. On travaille nos discussions générales ensemble, nos interventions ensemble, même nos conférences de presse ensemble. Voilà, effectivement, techniquement, on n'a plus de groupe. Il n'empêche qu'on essaie de travailler quand même en groupe. On fait même des plannings de permanence ensemble. Voilà, on garde notre dynamique collective. Alors, on n'est plus que 8 ou 9, je crois, mais bon, c'est pas grave, puisque certains sont partis. Yolaine de Courson et Frédéric Tufnel sont partis au MoDem.
Okay.
Donc, du coup, on n'est plus beaucoup, quoi. Mais on continue à travailler ensemble.
Et du coup, parce que trois, Guillaume Chiche, Émilie Cario, Aurélien Taché, qui sont des anciens EDS, sont dans le parti Nouveau Démocrate.
Oui.
Et toi, tu es rattaché à ce parti ou pas? Non, tu ne participes pas. Ok.
Non, je ne participe pas. Il y a Delphine Bagarre aussi. Ils sont 4.
Ok, ils sont 4. Ah, ok. J'avais un peu suivi aussi ce qui se faisait.
Non inscrite et ça me va très bien. Voilà.
Comment tu vois cette dernière année là qui va s'écouler?
Comment je vois cette dernière année? Alors, ça va être assez drôle parce qu'en fait, moi, je crois que je milite pour un mandat unique. Je trouve que certains députés sont déjà en campagne. Donc, ils ont déjà l'intention, a priori, de ne pas trop fréquenter l'hémicycle.
Déjà que le président l'est, donc.
Voilà. Donc, du coup, je pense que ça va être une année, je sais pas, et, ça va être une année où on va peut-être tenter des choses avec mon équipe et avec EDS plutôt rigolotes. Peut-être qu'on va essayer de. De faire de l'activité encore parlementaire. Je pense qu'on est là, on a été élu pour 5 ans, pas pour 3 ans et demi ou pour 4 ans, quoi.
Voilà. Du coup, on comprend que tu n'envisages pas de te représenter,
non.
Si?
Non.
Ok. Ça y est, stop.
Ouais.
Et du coup, tu vas faire quoi après?
Voilà. Donc, je vais faire quoi? Non, mais. Alors,
mais
faut savoir.
C'est un peu tôt
que...
pour en parler, mais.
Non, c'est
déjà,
pas
déjà, qu'est-ce que tu faisais avant? C'est intéressant, non, ça aussi. Voilà.
Qu'est-ce que je faisais avant? Aujourd'hui, il faut savoir que mon contrat de travail est suspendu. Je travaille dans un groupe de protection sociale qui s'appelle Audience et dans lequel je suis rentrée avant les fusions successives. J'ai fait un peu tous les métiers dans cette entreprise. Et moi, je suis chef de projet digital dans cette entreprise. Voilà, donc il va falloir que je retourne les voir pour voir ce qu'ils me proposent aussi, parce que ça peut être intéressant de les retourner les voir et puis y retravailler. Ça peut être voilà. Après, je t'avoue que ça peut être un peu compliqué aussi de revenir dans une entreprise en tant que député. Voilà, c'est.
Tu m'étonnes.
Voilà.
C'est plus la même chose. Voilà.
Donc du coup voilà,
après, tu peux peut-être avoir plein d'opportunités avec des associations.
Voilà, voilà. Donc sur le sujet, sur ces sujets-là sur lesquels je travaille, c'est voilà. Ça peut être parce qu'il y a un autre sujet qui m'intéresse aussi, c'est aussi tout l'apport du numérique à la société, et notamment le numérique en santé. Voilà, donc c'est des sujets pour moi sur lesquels ça peut être des ouvertures professionnelles, à la fois au milieu associatif ou institutionnel, à la fois sur le numérique, sur l'égalité des chances, qui m'intéresse, quoi.
Carrément. Petite question, quelle est ta plus grande fierté en tant que députée ces derniers temps?
Ah, la plus grande fierté, quand même l'adoption de la PPL-IVG. Hein. Ouais, ça, je pense que c'est.
J'avais un peu deviné, mais bon, je te la posais quand même.
On peut être assez fiers. Et je trouve que là, du coup, c'est un travail assez collectif. Alors, à la fois, c'est mon initiative, mais on a travaillé avec mon équipe, avec Élise Guéraud, et on a beaucoup travaillé sur la communication avec Léa Guichard. Voilà, on était toutes les trois à fond et soutenues aussi par mon autre collab Hélène Bureau qui est en circo mais qui fait aussi tout un travail de lobbying aussi en circo, je le sais. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, déjà une petite équipe de femmes très mobilisées sur ces sujets. Et puis après, c'est un travail avec Écologie, Démocratie, Solidarité qui s'est fait. Voilà, c'est participer à une aventure collective, ça c'est assez chouette. Et puis, c'est toute la construction, cette proposition de loi qui a été intéressante Et puis le travail avec les gros, autres groupes parlementaires.
Aussi, faire adhérer. Ouais, c'est intéressant un peu de concertation. Voilà.
Mmh. Ouais, tout ça, ça a été bien, ouais.
Mmh. Un regret ?
Un regret sur ce mandat ? Je sais pas si j'ai des regrets. Oui, peut-être mettre mon incrédulité sur La République en Marche. Voilà. Je trouve que ma crédulité. Oui, je pense que quand on s'engage en politique, il faut avoir un peu plus les pieds sur terre et savoir pourquoi on s'engage, essayer de comprendre les choses, voilà, mieux comprendre, mieux cerner, voilà.
Cool. Donc, si c'était à refaire avec Emmanuel Macron, non merci.
Ah non. J'irai avec quelqu'un qui est un peu plus droit dans ses baskets, je dirais.
Et tes relations, du coup, maintenant avec les anciens membres, avec les membres du groupe actuel, ça se passe comment? Encore avec qui vous arrivez à bosser?
Non, mais ça dépend. Il y a des gens avec qui j'arrive à bosser. Je vois Alexandra Louis, sur laquelle on a travaillé sur sa proposition de loi sur l'inceste. On travaille ensemble. J'ai travaillé avec Raphaël Gérard sur ses amendements sur tous les sujets transphobie. Avec Mustapha Labide sur ses amendements de constitution. Vraiment, je pense que c'est aussi ma position de non-inscrite qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. Et puis, on le voit sur la proposition de loi sur l'IVG. En fait, on travaille aussi je travaille aussi avec Cécile Muscotti ou Aurore Berger. Vous voyez et c'est ça que j'essaie de maintenir. J'essaie de travailler toujours dans le transpartisan. Je suis pas dogmatique. Moi, je peux travailler. Alors, je peux pas travailler avec le RN, bien évidemment. J'ai du mal avec les Républicains, mais aujourd'hui, voilà. Mais bon, après, je pense que chez les Républicains, il y a des gens qui ont voté la proposition de loi, et voilà, il faut savoir aussi, hein, c'est que Valérie Bazin-Malgras et Maxime Minot et d'autres personnes ont voté pour la proposition de loi IVG, et je les remercie. C'est parce qu'on est de droite qu'on est réac, et voilà. Donc voilà, j'essaie de travailler avec tout le monde. C'est ça que je pense arriver à faire à chaque fois. Et surtout pas nous mettre d'ornières, quoi. Apprendre à s'ouvrir, mais sans crédulité. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Alban. Un petit mot pour la fin ?
Eh ben, je sais pas. J'adore ton émission. Voilà. Donc, bonne continuation. Voilà, je trouve que la politique, c'est quelque chose d'enthousiasmant, mais il faut s'en méfier. Il faut savoir prendre des lunettes qui filtrent bien les informations et qui vous donnent des explications claires. Et voilà.
Ouais, il faut arriver à se blinder un peu aussi et pas tout prendre au premier degré. C'est pour ça, quand on discutait tout à l'heure, tu vois, proposition de loi, projet de loi, enfin, c'est des petites choses, mais qui sont super importantes, en fait, parce que sinon, on a l'impression qu'on est perdu dans des termes et ça nous déconnecte un peu d'une chose qui est pourtant fondamentale et qui nous concerne toutes et tous, quoi.
Ouais, c'est garder son froid, c'est les pieds sur terre aussi. C'est savoir, je suis élu député, mais j'en fais pas des caisses. J'essaie de comprendre pourquoi on est là, pourquoi je suis là. Voilà, il me reste encore un an de mandat à peu près. Je vais m'en servir. Je vais travailler comme je le fais depuis 4 ans. Voilà.
Super. Courage alors.
Merci.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.